Salut.
Coucou.
C'est l'équipe d'Imaginaire jusqu'à 22h sur le 101.5 de Radio G. On a Sébastien.
Oui, bah, je suis bien là avec Jean-Luc, Romuald, toi Romain, donc pour parler des Dents de la Mer en début d'émission, comme c'est le 50e anniversaire de ce film qui a marqué tant de générations.
Ouais, donc cet été hein, qui vient de se passer. Il y avait aussi, c'était au mois de juillet, je pense, j'avais parlé de mon livre de plage de l'été. Tu me l'as ramené, Sébastien ? Ah, elle est là. Crew Jaws par Brad Carter, donc novélisation de Crew Jaws, mais aussi Les Dents de la Mer 5. Bon, on en parlera tout à l'heure.
Ouais.
Jean-Luc, tu l'as vu ?
Je l'ai
vu, ce film de Bruno Mattei.
C'est ça.
Ce sera ta nouvelle
rubrique. Un peu, en fait.
Ah, merde.
À ce point-là.
Ah oui, c'est horrible.
Bah, on va parler d'abord, avec Romuald du film de Spielberg et puis un peu ses suites.
Alors, pas qu'avec moi, hein, je pensais que c'était plutôt une discussion plusieurs. Oui, alors, les 50 ans des Dents de la Mer, effectivement, avec de Steven Spielberg qui était pas son premier film, mais qui est celui qui l'a lancé en fait, et qui a été une grosse surprise au box-office, et qui a aussi lancé un schéma de qu'on appelle le blockbuster aujourd'hui, ça on en reparlera.
Ouais, c'est vrai.
Et puis ses suites, hein, donc là il y a eu Dents de la Mer 5, enfin c'est officieux évidemment, c'est ça, mais il y en a eu 4 officiels. On va peut-être en parler de deux,
pas
des deux derniers,
oui,
de chaque exploitation.
Oui. Et puis Sébastien, tu nous as quand même trouvé un livre-jeu.
Alors,
on peut se faire agresser par des créatures marines.
Ça par des créatures marines, c'est dans l'œil du dragon, ça c'est plus pour nous les adultes.
Okay.
Et il y a un tout pour les tout petits.
Oui, ça a vraiment l'air d'être.
On est attaqué effectivement par un requin. Je l'ai amené un peu pour okay. Le fun.
Et puis on a aussi essayé le jeu, parce que Sébastien me disait, bah là pour les rubriques jeux, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh ben, j'ai dit, Les Dents de la Mer, le jeu chez Ravensburger, ça existe. Et en plus, le Père Noël me l'a offert. Donc on a essayé ça, puis on va vous raconter ça tout à l'heure. Et puis voilà, et ben pendant cette émission, on va s'écouter pas mal de musique, un petit rapport avec les requins. Et on va commencer, alors si cette piste veut bien passer, est-ce qu'elle a l'air de faire la goule ?
Sharknado.
Non, c'était pas la musique de Sharknado, je voulais commencer par un morceau d'Accept, Fast as a Shark. Ah, ça y est. Ouf, on l'a retrouvé. On est parti très très loin des plages, j'avoue. Un petit classique du speed metal, puis après on se retrouve pour parler requins. Mon imaginaire sera de G.
We'll be right back.
Alors, il y a eu aussi cette soirée sur Arte cet été.
Oui, il y a eu une soirée double. Alors, justement, pour les 50 ans des Dents de la Mer sur Arte, ils ont passé les Dents de la Mer 1 et les Dents de la Mer 2 d'affilée. Ce qui m'a permis de revoir les Dents de la Mer 2 par hasard, puisque je faisais autre chose. Je regarde un autre film de requin complètement par hasard qui était à pas voir, justement. C'était Reef 2. C'était nul. Donc, c'était vraiment sous le signe du
requin.
Reef,
The Reef 2, c'est ça?
The Reef 2, ouais.
Qui est sur France TV.
Okay. Après, je l'ai vu effectivement sur France TV, mais il était disponible sur une plateforme quelconque, style Amazon ou Netflix, et je l'ai vu par hasard, et effectivement, il vaut peut-être revoir ses classiques. En tout cas, j'ai préféré voir Les Dents de la Mer 2 après. Mais en ce qui concerne Les Dents de la Mer, effectivement, c'est sorti il y a 50 ans, donc on fête les 50 ans des Dents de la Mer. D'ailleurs, vous m'avez amené un super bouquin qui est le spécial Man Movies qui a été fait sur les animaux attaques dont les Dents de la Mer. Mais évidemment, c'est dans le cadre des 50 ans des Dents de la Mer. Là, vous pourrez en parler puisque Jean-Luc et puis toi, Sébastien, vous l'avez lu. Il y avait un DVD avec aussi, il me semble.
Alors, moi, je l'ai pas eu. C'est Les Rats Attaquent, un film que connaît bien Jean-Luc.
Alors pourquoi t'as pas lu le DVD? Il est tombé du camion.
C'est le rat qui l'a mangé.
Les rats attaquent. Alors moi, ça me dit rien du tout, mais ça.
Alors c'est peut-être tiré des romans de James Herbert, non? Il y a eu une série de romans d'attaque de rats.
C'était les rats. Ça s'appelait les rats. Oui. Alors James Herbert, à pas confondre avec
Frank Herbert,
qui était anglais et qui avait écrit effectivement dans les années 70 des choses horribles sur une invasion de rats, de Londres, l'invasion de rats, et qui se finit très 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 mal. Avec une guerre nucléaire, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent, et c'était assez horrible effectivement. Mais non, je pense pas que ça soit.
Mais un petit classique de la littérature d'épouvante d'attaque animale.
Oui,
c'est ça.
En nombre. Alors ouais. Bon, effectivement, moi c'est des souvenirs d'adolescent, mais ça m'a vraiment marqué beaucoup.
Non, c'est les rats de Manhattan en fait.
Oui, c'est ça, de Manhattan.
Ouais. Un film italien peut-être du coup.
Oui, ça sent
à Manhattan.
mais en revenant aux Dents de la Mer, donc 50 ans, il y a 50 ans, on avait un Steven Spielberg. Qui avait donc fini un film, un de ses premiers films. Alors il avait fait Duel, lorsqu'il me semble pas, il avait fait Duel pour la télévision.
Exactement, c'était un téléfilm.
Je crois qu'il est sorti ensuite au cinéma, mais je sais plus dans quelles conditions. Mais par contre, il avait un autre film qui devait sortir, et en attendant et avant d'attaquer Rencontre du troisième type, sur lequel il commence à travailler, il n'avait pas grand chose à faire. Et les studios Universal pour qui il travaillait. Ils ont une idée. Ils ont dit il y a un roman qui a eu un énorme succès, qui était le roman de Peter Benchley, qui est sorti en 1974, qui a été un best-seller, mais de fou, hein, qui a été vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde, qui a été traduit dans toutes les langues et qui est resté presque un an au box-office, numéro un box-office. Ils ont décidé de l'adapter tout de suite. Ils ont acheté tout de suite les droits. Enfin, les producteurs ont acheté tout de suite les droits. Ils l'ont adapté de fait. Hein. Il est sorti. Le roman est sorti en 1974. Le film est sorti en 1975. Je veux dire, mais aujourd'hui, je pense pas qu'on fasse
on sera pas aussi rapide. Alors, le roman est ressorti, les éditions Gallmeister l'avaient réédité à l'automne dernier, en grand format, format luxe, et il vient de ressortir en poche, là, au mois de juin ou juillet, un peu pour l'anniversaire des Dents de la Mer, donc de leur collection Totem.
Ah, c'est intéressant.
Et donc, apparemment, le film est assez proche, hein, on va dire, de l'histoire du roman, que personne n'a lu ici.
Alors non alors
pas encore.
Proche avec des différences, il y a pas mal de différences mais qui sont pas forcément très importantes. Surtout en fait, c'est le romancier était co-scénariste du film, ce qui est aussi assez original.
Oui, c'est vrai.
En tout cas, à l'époque, ça se faisait un peu, ça se fait beaucoup moins maintenant. Et puis il y a eu un deuxième scénariste co-scénariste qui s'appelle Karl Gottlieb. Avec qui ils ont travaillé sur l'adaptation, Karl Gottlieb qui a proposé des adaptations pour que ça devienne peut-être plus adapté au cinéma. Par exemple, c'était le bouquin est plus horrible que le film, ce qui peut paraître étonnant parce que Les Dents de la Mer 1 est quand même assez gore. Il y a des choses qui ont été enlevées. Il y a la romance avec Hélène Brody et puis le Matt Hooper là, l'océanographe. Ça a été enlevé. Il y a deux, trois trucs.
Il y avait aussi une histoire de mafia, en fait. Le maire de la ville avait affaire à la mafia.
Alors ça, c'est important parce que ça, on en reparlera un petit peu. Okay. Après. Ça, c'est important.
C'est un petit
détail sympa. Mais donc, alors, ce film est arrivé. Donc après Sugarland Express, hein, ce que je disais, Sugarland Express allait sortir au cinéma. C'était le premier gros Spielberg. Et puis, il avait 27 ans, Spielberg. On l'a mis à la tête d'un énorme enfin donc projet qui était vraiment terrible. Et il a fait appel à John Williams pour la musique. Donc déjà c'est la première chose, tout le monde connaît cette musique avec le temps avec les deux notes.
On va bientôt se la mettre.
Spielberg pensait que c'était une blague au départ, parce que John Williams était habitué à autre chose. Et puis John Williams, il avait déjà une belle carrière, mais il commençait vraiment à mettre sa patte. Il allait faire ensuite, Les Dents de la Mer 2, il a fait une autre bande son qui est assez remarquable. Et c'était vraiment juste avant Rencontre du Troisième Type, Star Wars évidemment, en 77. Enfin, c'était après Star Wars, pardon, parce que c'était en 77.
Star Wars. Peut-être.
Mais bon, voilà, il était chaud, quoi. Il était chaud, John Williams. Et il a une idée de fou qui était à contre-courant de ce qu'il nous a proposé après, d'ailleurs. On a tout de suite quelque chose qui est mis en place, c'est un film qui était censé mettre un monstre en place, qui devait faire peur. Et la première chose qui s'est passée dans la première scène d'apparition du monstre, parce que c'était un monstre mécanique à l'époque en 75, le monstre il a coulé. Le requin est apparu, il a coulé tout de suite, il a cassé en deux. Ils ont mis des semaines à le repêcher. Et là, on avait déjà des problèmes dans la production, parce qu'il filmait sur l'eau. C'était compliqué, c'était du cinémascope. Spielberg était très exigeant. On avait des acteurs, comme on avait Roy Scheider, Richard Dreyfuss et Robert Shaw, qui étaient quand même trois acteurs. Alors, Richard Dreyfuss était au début de sa carrière, mais alors les deux autres étaient quand même déjà bien installés. Ça se passait pas si bien que ça à Spielberg. Il le disait, mais qui c'est ce gars? Il sort d'où? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Enfin, bon, voilà. On a le budget qui a été multiplié par deux. Alors, il est passé de 4 millions de dollars à 9 millions de dollars. Alors, bon, avec ce qu'il a rapporté, ça paraît très, très drôle aujourd'hui. Mais sur le moment, les producteurs, alors, ça a rapporté 477 millions de dollars avec l'international. Mais rien qu'aux États-Unis, c'est plus de 200 millions. Les producteurs commencent à avoir peur. Et il aurait très bien pu se faire virer. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, bon, ok, on va changer notre façon de faire. Ça va pas être un film de monstre avec un gros monstre qui va arriver, etc. On va faire un film de suspense, parce que de toute façon, on n'aura pas les moyens de faire autrement. Il marche pas bien, notre monstre. Donc, on va pas le faire apparaître trop. Et ça a été, je pense que ça a été l'idée du film, qui a fait qu'ils ont fait un super film. C'est pas un film d'horreur ou de monstre, c'est un film de suspense. C'est le film où il y a le plus de suspense chez Spielberg. Même si après, on retrouve toujours cette marque chez lui de mettre du suspense. Mais c'est un film qui va de A à Z dans le suspense. Et ça commence par la première scène où on a une nageuse. Alors, je spoil pas, ça fait 50 ans qu'il est sorti le film. Il y a une nageuse qui se fait dévorer. On ne voit pas un bout d'aileron, on ne voit pas un bout de dent, on ne voit rien.
En plus, c'est la nuit.
Ça se passe la nuit. On a la musique qui arrive. On a la fille qui est happée par-dessous l'eau, qui s'accroche à une balise. Mais par contre, on ressent à travers ce qui se passe le déplacement de cette nageuse. Comme après, on va voir le déplacement, les deux hommes qui vont tomber d'un ponton à l'eau. Oui, on va voir la puissance du requin. On va la sentir cette puissance du requin sans absolument jamais voir le requin. Et c'est vrai que Spielberg s'était souvenu que de The Thing, pas celui Carpenter, puisqu'il est arrivé après.
Oui, The Thing from des années 50,
où on ne voit jamais le monstre, mais on a tout le temps peur. Et donc ils se sont dit, on va vraiment miser là-dessus. Et je pense que derrière ça, il y avait cette culture qu'il peut avoir du cinéma de Hitchcock aussi, auquel il fait référence à un moment donné. Alors directement, c'est une scène sur une plage où on a donc le shérif qui est joué par Roy Scheider, donc Martin Brody, qui se dit bon, il y a un requin, il y a que lui qui y croit, il y a un requin, il y a des gens qui sont morts, le maire ne veut pas croire, tout est ouvert, la plage est bondée, il doit surveiller les gens, il regarde partout, il a très peur qu'il se passe quelque chose, et évidemment à un moment il se passe quelque chose. Et là, on voit ce qu'on appelle, alors je n'ai pas retenu le nom technique, c'est un travelling contrarié, c'est la même chose. Et en fait, tu peux peut-être expliquer, Jean-Luc.
Voilà. Alors du coup, c'est quand, lorsque le cameraman, je crois qu'il zoome et il recule, c'est ça en fait, en même temps.
C'est ça, en fait, il fait un travelling arrière en même temps qu'il fait un zoom avant ou l'inverse.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en fait, faut imaginer la caméra qui recule très fortement, alors que le caméraman qui est sur la caméra qui recule, lui, il va zoomer vers l'avant très fort. Alors ça donne quoi comme effet? En fait, on l'a tous vu, mais c'est hyper impressionnant. C'est, on a le visage qui est zoomé du personnage qui reste toujours sur le même plan.
C'est ça. Et le fond.
Mais par contre, le fond, on a l'impression qu'il s'enfuit très, très loin derrière. Eh ben, c'est Hitchcock qui l'avait mis en place dans Vertigo.
Ah oui. Ah, d'accord.
Et en fait, cette scène-là fait directement, vraiment, c'est un clin d'œil direct et voulu et volontaire. Il avait attendu une scène qui était vraiment importante dans un film important pour la mettre en place. Donc voilà. Donc faut imaginer que c'était une époque aussi de renouveau dans le cinéma. C'est-à-dire que on parle pas forcément de films de monstres parce que ça existait déjà. Il y avait des monstres qui étaient d'ailleurs assez grotesques. Et on les montrait beaucoup. Ils faisaient plus forcément peur. Là, on a une jeune génération de réalisateurs qui arrivent en fait. On avait Coppola, on avait George Lucas, d'ailleurs qui avait créé une maison de production à eux deux, puisque Coppola c'était celui qui avait réussi à avoir du succès avant tout le monde avec Le Parrain, mais je sais plus le premier avec Patton en 71, il avait réussi à faire un grand film. C'était très jeune. Il y avait Scorsese, De Palma, enfin Simio, c'est le moment où ces gens sont arrivés, quoi. Et c'était au moment aussi les studios Universal ils commençaient un petit peu à battre de l'aide. D'ailleurs, comme tous les studios de l'époque, ils manquaient de souffle. Donc ils arrivent avec des idées nouvelles et puis des façons un peu de voir le cinéma de nouveau. Le requin, il faut noter que justement, il est pas dans la grandiloquence parce qu'on le voit pas trop, mais il est aussi pas réaliste, mais presque. C'est-à-dire qu'il est énorme. Mais c'est pas le mégalodon que combat John Statham et ça joue dans le côté les gens ont eu peur après. Il y a une psychose qui s'est créée cet été-là parce que c'est sorti l'été et c'était aussi très nouveau ça de faire sortir un film l'été. Et là les studios, ils l'ont pas vu venir le succès, c'est assez étonnant, ils avaient pas du tout imaginé que l'été les gens, ils avaient peut-être envie d'aller au cinéma parce que c'est les vacances. Donc c'est tous les teenagers qui sont allés au cinéma qui étaient pas la cible à la base des films, c'était plutôt les adultes ou pas les familles bien sûr, pas ce genre de film, quoique. Mais les teenagers sont allés le voir, ils sont allés le voir plusieurs fois. Et ça crée aussi ce phénomène-là. Et donc derrière, on a eu énormément d'entrées, mais aussi on a eu tout ce qu'on a, pas les goodies, mais tous les produits dérivés qui ont été créés à partir de là.
Et il y en a eu pour les enfants, ce que j'ai vu,
évidemment.
Ah oui. Qui avait un genre de docteur Maboule, mais c'est un requin en fait. Tu dois placer des objets et si tu te rates, crac. La bouche du requin referme sur ta main.
Pourquoi ils ont fait ça? Et ça, ils l'ont refait dans les années 80, les années 90. Par exemple, ils l'ont fait très très fortement avec Jurassic Park, le premier, qui était sorti en 93, il me semble, 92-93. Il était PG-13, je pense qu'il était interdit au moins de 13 ans ou peut-être au moins de 10 ans. Donc, il y a beaucoup de gamins qui pouvaient pas le voir. Mais t'as acheté le jouet, ça coûtait 4 fois la place de cinéma. Pareil. En fait, Jaws, les Dents de la Mer, il y a forcément des gamins qui pouvaient pas aller le voir, quoiqu'à l'époque, c'était un peu moins exigeant que 10 ou 20 ans plus tard. Mais par contre, ils achetaient des produits dérivés, il y avait les t-shirts, il y avait énormément de goodies, etc. Il y a eu de la musique, il y a eu une boîte disco qui s'appelait Jaws, avec eux, ils passaient de la musique qui s'appelait Super Jaws. Enfin, il y a eu beaucoup de choses dans ce genre-là, quoi. Et ça a vraiment créé, ce qu'on appelle le blockbuster aujourd'hui. Qui a été le premier film, alors on l'a dit tout à l'heure, il a rapporté 477 millions de dollars estimés à l'international en tout avec le box-office. C'était la première fois, attention, c'est la première fois qu'un film dépassait les 100 millions de dollars. Ils en font 477.
Ah ouais.
Vous imaginez, ça a pété tous les scores. Et 2 ans plus tard, ils se font battre, parce que les records étaient battus comme ça au fur et à mesure, par d'autres blockbusters, par Star Wars en 77, simplement. Et de George Lucas, qui était on va pas dire de la même école, mais de la même génération, finalement. Donc voilà, et ça c'est quelque chose qui est vraiment resté, c'est ces deux phénomènes, le blockbuster et aussi la psychose, effectivement, de se baigner cet été-là. Les gens ont eu peur. Le requin est devenu aussi un animal perçu comme dangereux alors qu'avant il l'était pas forcément. On pouvait comparer des gens aussi aux requins. On le faisait moins, ça on le savait pas forcément. Aujourd'hui on a l'habitude de dire c'est un requin, ça vient peut-être de cette époque-là. Il y a même une communauté, alors je sais plus laquelle, mais peut-être dans le Massachusetts où ça avait été filmé, qui avait porté plainte et qui avait pas eu gain de cause évidemment parce que ça avait ruiné leur saison d'après eux. Donc voilà.
Ah ouais, à ce point-là.
Donc effectivement, cette idée du requin, du monstre, c'est aussi un moyen de l'époque d'avoir une de parler en creux, mais alors pas de manière très vraiment frontale, mais en creux de l'époque. C'est-à-dire que le méchant, peut-être que c'est un requin, mais c'est peut-être le capitalisme. En tout cas, c'est ce qu'avait pensé de Fidel Castro quand il avait lu le roman, parce qu'il avait lu le roman, il avait dit bah là, c'est on parle du capitalisme, et c'est peut-être un peu vrai. Parce que, et là je reviens au maire, dans le roman, le maire, lui, il est mafieux, pas dans le film. Et c'est peut-être lui le vrai requin du film, voilà, dans une époque assez sanglante pour les Américains, puisqu'il sortait juste de la guerre du Vietnam, où il y avait beaucoup de sang. C'est peut-être que ce sang-là voulait dire quelque chose. Alors, Spielberg n'est pas un revendicatif, c'est pas quelqu'un qui a voulu en parler. Mais bon, on peut lire ça si on veut bien le lire, et c'est pas en avant. Et puis c'est l'époque du Watergate aussi. Donc on a toute cette arrière plan en fait qui peut être vu comme c'est pas qu'un simple divertissement, c'est pas qu'un simple film d'horreur qui, comme je le disais, est un film à suspense finalement, mais qui est un film aussi assez radical puisqu'il est assez trash, hein. Il y a des scènes assez trash. Et alors, est-ce que vous avez revu donc Sébastien et Jean-Luc Les Dents de la Mer 2 cet été?
Oui, moi je l'ai revu parce que je voulais avoir la suite avec les acteurs que j'ai aimé beaucoup dans le premier. Mais ce qui m'a manqué, c'est les personnages de Quint. Il disparaît.
Oui. Alors, on n'en a pas parlé, qui est joué par Robert Shaw, qui voilà. Est un très grand acteur britannique. Ouais. Mais je crois qu'il était mort hein, déjà au Dents de la Mer 2, il me semble.
Et l'océanographe Hooper, en fait, à un moment donné... Martin Brody cherche à le joindre au téléphone, mais en fait il est en mission en Arctique ou en Antarctique. Mais on retrouve quand même Lorraine Brady, qui joue quand même dans le quatrième aussi. Mais...
Alors en même temps, c'est pas étonnant, c'était la femme ou la copine du producteur, non, je sais plus comment il s'appelait, c'est pas un producteur, non, c'était celui qui était à la tête d'Universal.
Ouais.
Donc elle est un petit peu.
Comme par hasard.
Tony.
Et on la voit même un peu plus que dans le premier, dans sa relation avec Martin. Alors moi, j'ai beaucoup aimé le deuxième, dans le sens qu'il y a des similitudes et à la fois des différences. On a deux arcs qui sont bien distincts. On a à peu près une grosse première heure qui se déroule à Amity. Et j'ai adoré Romuald. Dans le premier, le maire, un peu, il se ratatine face à Brody. Alors que dans le deuxième, c'est le maire, un peu, qui prend... de l'assurance jusqu'à faire renvoyer, virer Brody.
Il prend sa revanche.
Il prend sa revanche.
Dans une scène assez mémorable où on est mal à l'aise pour Brody, en fait, puisque finalement le maire qui est quelqu'un de détestable avec son conseil municipal, et ben sur leur analyse, ils ont pas du tout tort, en fait. Hein. Elle est pas mal cette scène, et c'est vrai que les acteurs, on retrouve Roy Scheider en tant que Brody, on retrouve donc Lorraine, alors Lorraine, j'ai mangé son
Hélène. Famille.
C'est Hélène, Lorraine Gary qui est donc Hélène.
Et les enfants qui ont grandi aussi.
Alors les enfants, je crois.
Les deux enfants, il y a le Mac, peut-être pas les mêmes acteurs, mais il y a toujours deux enfants, et Sean. Oui. Et aussi le requin, j'ai beaucoup aimé, même si on le voit peu. En fait, à un moment donné, il s'attaque à un bateau,
un
surfeur, là. Et puis, en fait, il va exploser. Et puis, il y a une moitié de sa gueule qui est brûlée.
Ah oui.
Ça lui donne une identité différente.
C'est le requin un premier. Peu, ouais,
qui fait le lien avec le premier, d'ailleurs.
En plus. Et on va pas encore parler de Cruel Jaws ou des nanars.
Si, mais on
voit le
bientôt.
Requin à tête brûlée qui s'attaque dans la deuxième partie du film, les amis. Un hélicoptère posé sur l'eau. Donc c'est un requin vraiment que je trouvais encore plus intelligent et qui est vorace et qui n'a pas peur de s'attaquer quand même à un hélicoptère.
Ouais. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un film qui est un peu un remake, sans en forcément tout en faire naître un, parce qu'effectivement il y a quand même des scènes fortes comme celle de l'hélicoptère ou celle du ski nautique aussi, qui est pas mal. Qui est pas mal. Après c'est quand même un film qui est marqué par quelque chose, justement c'est moins violent. Il y a pas de démembrement, il y a pas de choses comme ça. D'ailleurs la scène de l'hélicoptère, il y a une scène qui est coupée. En fait, là, il y a la scène où l'hélicoptère coule et le requin attaque le pilote sous l'eau. Là, les producteurs, ils ont dit non, c'est trop violent. C'est trop violent parce que c'était une suite et les suites ne fonctionnaient pas. Cette suite a très bien fonctionné. Hein, il n'y a pas de spoil. Même si elle est moins bien, elle a quand même très très bien fonctionné avec un budget double au premier. Elle a rapporté quand même énormément d'argent, mais pas autant. Mais Spielberg, lui, disait, moi, je crois pas aux suites. Et il a refusé de faire ça. Alors, il bossait aussi sur d'autres choses. Hein. Je crois qu'il finissait donc Rencontre du troisième type, il me semble. Mais quand vous regardez la filmographie de Spielberg, il a jamais fait de suite.
Et j'ai une question pour Romain. Tu m'as dit que lorsqu'on a fait le jeu de société Les Dents de la Mer, pour l'anthologie Au fil de l'eau d'Imaginaire, que tu avais écrit une nouvelle en te souvenant des Dents de la Mer 3.
Exactement.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film?
Ouais, c'est juste l'idée du parc aquatique. J'ai écrit une nouvelle avec ma sœur et on avait envie de faire tout péter un peu, de rendre toutes les bestioles dans un parc aquatique violentes.
Et c'est en 3D aussi, c'est pareil.
Il y a un requin mangeur.
Ouais, qui est dessiné par Candice Roger d'ailleurs. Cette anthologie n'est plus disponible, mais si vous l'avez, tant mieux.
Alors d'ailleurs, Dents de la Mer 3 qui avait été réalisé par Joe Alves, qui était lui celui qui avait été responsable des décors et de la création du requin dans le premier. Donc c'était son premier film. C'était très très courageux de sa part de se lancer dans un film en plus en 3D avec la technologie de l'époque. Hein, c'était en 83 le troisième. Mais c'est vraiment un film oubliable.
C'est encore plus le quatrième. Et on a quelques petites anecdotes en plus de celles que nous a rapportées Romuald. Donc dans le Man Movies, qui est sorti cet été, un hors-série, qui parle en premier des Dents de la Mer, et d'autres films, de bons films de requins, comme Instinct de survie, qui est sur Netflix, comme en ce moment même Les Dents de la Mer 1. Donc je vous conseille de le lire, et aussi d'autres animaux dont on a peur, des araignées, voire des moutons aussi. Et c'est vraiment une bonne petite bible pour commencer à regarder de bons films d'attaque animale.
D'ailleurs, Alexandre Aja, c'est jamais caché qu'il s'est inspiré. Alexandre Aja, c'est Piranha 3D, en 2010. Et plus récemment, c'est Crawl, que moi, je n'ai pas vu, mais qui avait eu pas mauvaise presse. Alors, Alexandre Aja, c'est un Français qui... Il a fait aussi La Colline des Yeux, je crois, le remake de La Colline des Yeux. C'est un Français qui est quand même... C'est entré aux États-Unis depuis quand même pas mal de temps maintenant. Et il s'est jamais caché qu'il s'est inspiré des Dents de la Mer, à tel point que dans Piranha 3D, il fait revenir Richard Dreyfuss. Comme si Richard Dreyfuss était à la retraite et allait sur un lac en disant bah finalement moi je viens comme ça je vais loin de la mer et de Pénard quoi. Et donc c'est marrant parce que quand je l'avais vu ce film là j'avais pas du tout compris que c'était Richard Dreyfuss qui avait bien vieilli. Mais effectivement il a joué là-dessus, donc il y avait un clin d'œil vraiment ultra direct quoi. Mais j'aimerais bien dire un truc aussi sur Les Dents de la Mer 2. Alors premièrement c'est en fait j'ai bien aimé. Finalement, il est quand même très regardable. Il est vraiment sympa. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il y a un développement de l'histoire. Il y a toujours des personnages qui sont assez forts. La famille est très présente, etc. Et il y a ce côté teenage movie. C'est peut-être le premier teenage movie quelque part, ou un proto teenage movie, où on sent c'est un peu les Goonies qui arrivent. C'est un peu ce type de film là qui arrive, où on met les adolescents devant la scène et puis les adultes. Alors c'est pas tout le temps vrai parce que Roy Scheider est très très en avant avec son rôle de shérif, mais quand même il y a tout un groupe de teenagers qui manquent peut-être un petit peu de charisme, mais on sent vraiment que ce début là des années 80 qui commence à transparaître avec ces films qui vont nous faire rêver quoi. Avec des Goonies jusqu'au Gremlins etc.
Et on sent que le requin, je trouve, par rapport au premier, Romuald, qu'il a comme une longueur d'avance sur le shérif lorsqu'il doit essayer de retrouver les jeunes.
Alors c'est plus une bête, c'est une bête intelligente. Voilà. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est une bête vengeresse. Hein. Elle veut se venger parce qu'elle a pas été tuée. Et puis elle s'attaque à qui? À la famille de Brody. Donc il y a quelque chose de moins animal. Alors peut-être moins inquiétant ou plus inquiétant, ça dépend du point de vue. Moi, le premier m'a fait beaucoup plus peur quand même, le premier monstre.
Cette histoire de vengeance contre la famille Brody deviendra un peu ridicule hein, dans Les Dents de la Mer 4, où le requin traverse l'océan
Qu'il va
chercher l'honneur de la famille. Ouais.
et d'ailleurs, Roy Scheider, qui voulait absolument pas faire le 2, mais qui avait eu un problème, parce qu'il était parti d'un film du Voyage au bout de l'enfer, il devait encore deux films au studio d'après contrat, et les films lui ont dit, mais les studios lui ont dit, ah mais ok, si tu fais Dents de la Mer 2, on te libère de ton contrat alors que tu devais faire deux films. C'est comme ça qu'ils ont réussi à le traîner. Dans le troisième, on apprend que le personnage est mort d'une crise cardiaque. Hein. Donc, c'était une facilité scénaristique. Je veux plus revenir.
Et dans la scène d'ouverture du 2, donc on a des plongeurs donc sous l'eau. Et il y a l'orca. L'orca donc qui apparaît dans le premier. Ouais. Donc là, on voit le requin surgir. Donc vraiment, il était dans les parages de l'orca. Donc on sent qu'il a vraiment une dent contre ceux qui ont tué l'autre.
Et d'ailleurs, Orca, qui est aussi le nom d'un film.
Un film très bon aussi.
Qui n'est pas inspiré des Dents de la Mer, mais qui vient après, qui vient deux ans après, qui est très intéressant.
Et il y a un très
et
bel article.
Qui nous met encore plus du côté de l'animal. Parce
oui,
que
oui
là,
complètement du côté d'Orca. Oui. On est vraiment du côté de, qui, ouais. qui se venge de la mort de son petit et de la maman, je crois aussi.
Oui. Ouais.
On s'écoute le thème de John Williams. Hein. Et puis on revient par les chars exploitation.
Avec Jean-Luc.
En imaginaire. Ça commence doucement, mais je crois que vous connaissez.
Oui.
Alors sur Arte, cet été, il y avait aussi un documentaire sur les dents de la mer, que moi, je n'ai pas trouvé passionnant. Mais par contre, j'en ai profité pour regarder Sharksploitation, un documentaire américain qui doit dater d'il y a deux ans, quelque chose comme ça.
Il est sorti en
2023. Et alors là, tout est abordé. Il y a même
histoire.
Ouais, il parle même de la thalassophobie, quelque chose comme ça, qui expliquerait aussi le succès, le fait d'être isolé aussi dans un espace sur lequel on a pas de prise.
Oui, et puis on voit pas où sont nos pieds, et puis
on peut se faire croquer.
Ouais, puis on rajoute la peur de la dévoration, qui est quand même une peur primitive. Hein, c'est la petite enfance.
Et il y a quand même quelques films de requins, on va dire, dans Sharksploitation, enfin pas que de requins en fait, je dirais. Moi, il y a eu Peur Bleue que j'avais bien aimé. Alors en fait, c'est des films qui m'ont marqué, parce que je les ai vus au cinéma. Donc j'ai vu Peur Bleue en 1999, film de René Harlin.
Avec des requins intelligents.
Voilà, des requins de plus en plus intelligents. Ils sont génétiquement bidouillés parce qu'ils servent à des recherches en fait sur le traitement contre le cancer. Et donc, trois requins qui, quand même, font exprès de croquer un des scientifiques, mais sans le manger, juste le blesser, tu vois, pour que l'hélicoptère de secours vienne. Et en fait, ils se servent de l'hélicoptère pour péter, et du blessé pour péter la vitre qui les retient dans leur aquarium. Là, j'avais trouvé ça quand
même
pas mal.
Ouais. Ça va loin, quoi.
Et puis Piranha 3D quand même, moi j'avais adoré ce film d'Alexandre Aja, je l'ai vu.
Alors, il était délirant.
Oui, c'est ça.
Ouais, assumé, mais il y avait dans le Les Dents de la Mer 3D, il y a un bras qui tombe dans l'eau et que les gens ont dû voir à l'époque. Un bras avec l'os qui dépasse et tout, une scène assez gore quand même.
Ou une jambe, c'était pas une jambe?
Ah ouais, peut-être. En tout cas, l'os et tout, c'est ça dégueulasse. Aller, ouais, et donc Alexandre Aja, lui, bah, c'est un zizi hein, qui tombe dans l'eau comme ça. Je trouve ça quand même bien cool.
Là-bas,
et qu'on peut voir en 3D, on peut tendre la main vers cette chose. J'étais trop jeune, moi, pour aller voir Les Dents de la Mer 3D, donc ouais, je me suis rattrapé avec Piranha 3D. Puis Alexandre Aja, quand même, aussi, qui a eu la bonne idée d'aller chercher des actrices du côté des films pour adulte et tout,
oui.
Hein, donc voilà.
Voilà. Il s'est assumé aussi.
Et puis donc, Cruel Joe's, que Cruel Joe's, je n'ai ça, vu ouais. que il y a quelques jours en préparant cette émission, parce que j'avais lu donc ce livre réédité, enfin cette novélisation traduite par les éditions Faute de Frappe il y a quelques mois. Ouais, Brad Carter qui est en train de traduire des films d'Andy Sidaris, enfin de les novéliser. Tu vois, Fastlane to Malibu et trucs comme ça aussi.
Ah oui.
On parlait de bikini et tout,
cinéma,
de nanar, là on est en plein dedans, donc c'est quand même assez rigolo de se lancer dans ce genre de choses. Et donc voilà, donc Cruel Joe's en fait, voilà, le film, ça reprend bien le roman, enfin plutôt l'inverse.
C'est ça. Alors aujourd'hui je vous emmène dans les profondeurs de l'océan, mais du cinéma bis.
Ouais.
On parle d'un film qui se présente comme Les Dents de la Mer 5, alors qu'il n'a jamais été reconnu par Spielberg, ni par Universal. Je ne peux pas vous plonger dans le nanar aquatique culte Cruel Joe's.
Alors, Les Dents de la Mer 5, ça leur a posé des problèmes, même récemment, pour les éditions DVD, parce qu'aujourd'hui, ouais. on refait même de très beaux DVD à partir de vieux films très mauvais. Ça a été compliqué, il y avait un veto là-dessus, et même le livre de Brad Carter a été bloqué pendant un moment, en fait.
Ah oui, parce qu'il ne pouvait pas utiliser Les Dents de la Mer.
Tout ça parce que ce film est vraiment embête encore des gens.
Et c'est pas fini. Le film a été réalisé par Bruno Mattei sous le pseudonyme William Snyder. Cruel Joe's est un film italien tourné en Floride en 1995, sorti directement en vidéo. L'intrigue est simple. Un requin tueur sème la panique dans une petite station balnéaire. Un propriétaire d'un parc aquatique, un expert en requins et la police locale tentant de l'arrêter. Mais ce qu'on retient, c'est surtout les explosions improbables. Sébastien, je ne sais pas si tu vois à peu près les... Est-ce que tu as vu le film ? Je crois que t'as vu le film, tu m'avais dit.
Ah non, vite.
En tout cas, il est visible sur YouTube.
Courage. J'en ai vu d'autres, mais.
On peut le voir sur YouTube, en version française.
C'est
ça, avec un autre titre.
Il est disponible, c'est ça.
Les Dents de la Mer 5, voilà.
C'est ça, ouais, c'est ça. Les dialogues absurdes et le grand n'importe quoi du film. Ce film est un patchwork parce qu'il recycle les images entières des autres films de requins. Les Dents de la Mer, The Last Shark, Deep Blood. Bon, c'était que cela.
Je crois que c'est la scène où il y a une compétition de planche à voile qui est entièrement
reprise. C'est ça, ouais.
Il a juste filmé deux acteurs après.
C'est ce qu'a fait aussi Tiens Barreau Large. Mais comment c'est possible, Jean-Luc, au niveau des droits, comment il a fait?
C'est pour ça qu'il a des problèmes.
Ouais, c'est ça.
Ah oui, d'accord, il n'avait pas le droit, d'accord.
Ouais, c'est ça, non, voilà. Non, il a fait un peu comme il voulait, tout simplement, quoi. Donc je pense qu'on fera un film un jour imaginaire pour. Voilà.
D'accord. Oui, c'est ça, oui.
Même la musique est empruntée à certains moments. On entend carrément le thème de Star Wars.
Ouais, je vois.
Tu vois.
C'est un peu le générique du film, mais c'est un.
C'est ça.
Il a été chercher ça dans une librairie musicale, et effectivement, où des gens peut-être étaient très inspirés par d'autres musiques.
Ah, ça me rappelle la démarche des films turcs quand ils font Superman ou des choses comme ça.
Alors, il y a aussi un Dans la Mer turque, on voit ça dans le documentaire Cherche Patation, où les gens. T'es obligé de chanter dans les films de Bollywood, donc même en se faisant croquer par le requin, je continue à chanter.
Alors celle-ci, c'est la Turquie, c'est pas Bollywood.
Ah oui, je dis des bêtises. C'est peut-être un film indien.
Ils sont pas trop loin, voilà. Donc c'est un film qui ressemble à une compilation bricolée plutôt qu'à une œuvre originale. Voilà.
Et c'est le cas.
C'est ça. Du côté des critiques, le film est considéré comme un nanar, un navet, tellement mauvais qu'il en devient drôle. Les spectateurs rient des dialogues ridicules. Les attaques de requins sont si mal filmées qu'elles ne paraissent comiques, bien sûr. Et le scénario, disons, qui coule plus vite qu'un bâton en carton.
Et aussi un peu embrouillé. Hein. Moi, j'avoue que les scènes aquatiques, j'ai pas toujours tout compris.
Non, non, c'est pas. je pense qu'il a tourné sans vraiment savoir ce qu'il faisait. Voilà.
Il y a l'histoire d'une épave aussi, parce que c'est encore une histoire de secret. Ce requin ne vient pas de n'importe où. C'est un secret gouvernemental. Et ça, c'est un peu plus dans le. Alors, Brad Carter a un peu plus développé cet aspect dans sa novélisation.
C'est ça. Pourtant, ce film a acquis un statut culte auprès des amateurs de cinéma, comme moi, voilà, qui aime les nanars. Il fait partie de ces films qu'on regarde entre amis, non pas pour avoir peur, mais pour pleurer de rire. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est simple. Au-delà de sa médiocrité, Cruel Jaws illustre parfaitement le phénomène des mockbusters. Ces films fauchés qui surfent sur le succès des grands blockbusters pour tromper un peu le public et parfois créer une œuvre involontairement géniale. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des exemples. Il y a Transmorphers.
Ouais, tout ce qui était chez
Asylum. Voilà, qui sont les rois des mockbusters. Voilà.
Ouais, là, qui montent en gamme d'ailleurs, si j'ai bien compris. Hein. Ils essayent de faire un peu mieux qu'au départ, ils
ont
fait.
Ils essayent vraiment, quoi.
Et il y a Amazon, sur Amazon Prime, on trouve plein de choses comme ça qui n'ont aucun sens et qui s'appellent, je sais pas, Alien versus Predator, alors que c'est pas du tout Alien versus Predator. J'exagère à peine, hein, c'est le titre est très proche. Non, c'est Alien Predator au lieu de Alien versus Predator.
Ouais. C'est ça, ouais.
Et alors, faut surtout pas cliquer là-dessus.
Non, il faut pas.
Bah, tu te rends peut-être compte, toi aussi, au bout de quelques minutes.
Oui, c'est ça, très vite.
Oui, ou alors, faut être entre amis, puis elle assumait jusqu'au bout, effectivement, dans ces cas-là. Mais c'est vrai que ce phénomène-là, je connaissais pas le terme, hein, c'est mockbuster. Mais moi, quand j'étais adolescent, je le faisais déjà, parce qu'on avait déjà des films qui étaient lus. D'ailleurs, je crois que je me rappelle que les Rats de Manhattan, je l'ai vu, que ça faisait partie d'un de ces films où on a l'impression qu'il y a un rat qui saute à la gorge de quelqu'un. Ça se passe après une guerre nucléaire. Je me rappelle, c'est un film italien.
C'est un post-apo.
En fait, tu vois quasiment le bras du gars qui est dans le rat. C'est complètement ridicule. Et ça fait passer une très bonne soirée.
Bruno Mattei n'en était pas à son coup d'essai, parce qu'avant il avait fait Robo War.
C'est ça, Robo War. Il avait fait Virus Cannibal, qui sont des films pour moi qui sont très bons.
Robo War, c'est Predator, on est d'accord.
C'est ça. Il a fait Horror Cannibal, le 1 et le 2, qui sont des.
Pour surfer peut-être un peu sur la mode Cannibal Holocaust.
C'est ça, voilà, simplement.
C'est la mode.
Si on peut dire. Alors, Cruel Jaws, est-ce le pire film de requin jamais fait?
Non,
il y a pire.
C'est pas pire. Je pense qu'il y a pire.
Peut-être. Est-ce un film qui vaut le coup d'œil?
En fait, t'as donné envie quand même. Hein. T'as donné envie.
Il y a un truc, moi je trouve, il y a un petit côté film familial. J'étais un peu surpris parce que Brad Carter, dans sa novélisation, il y va assez loin côté gore et cul.
Oui.
Et donc, du coup, là, quand j'ai vu le film, je suis resté un peu sur ma faim. Et un des personnages principaux, c'est une petite fille dans un fauteuil roulant. C'est un des personnages importants du film. Il y a ce côté un peu, voilà, maintenant. Char exploitation, mais quand même un peu pour toute la famille.
Donc, faut d'abord voir le film avant de lire le bouquin, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça. Alors, pas pour son suspense ni pour ses effets spéciaux, mais pour son pouvoir comique involontaire, un vrai nanar aquatique à savourer avec des amis avec un grand bol de popcorn. Voilà.
On s'écoute le morceau de Jaws par les Bonzers, qui était un groupe de surf musique de Niort.
Ah.
Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des auditeurs de Radio G qui sont sur le chat et qui ont vu le film Virus Cannibal.
Yes.
Finalement, Sébastien, on va pas parler livre-jeu. On parle directement du jeu de société,
ouais,
et dans de la mer.
J'en parlerai plus la prochaine fois.
Ok. Ravensburger, donc un jeu familial, quand même. C'est plutôt un éditeur de jeux familiaux. Alors, un jeu signé Prospero Hall. Alors moi, j'ai toujours cru que c'était quelqu'un, Prospero Hall. Et en fait, j'ai compris récemment que c'était un collectif de créateurs de jeux de société basé à Seattle. Et on leur doit pas mal de succès ces derniers temps. J'irais peut-être le plus connu, c'est Villainous, gros jeu Disney où on joue les méchants de Disney, tous en s'affrontant les uns les autres. Et puis, on s'envoie les gentils de Disney pour se contrecarrer. Et ils ont beaucoup travaillé, Prospero Hall, pour Funko Games, donc les jeux de société de la marque Funko, et département qui a été fermé d'ici un moment.
Alors, moi, je ne l'ai pas testé, ce jeu, mais quand j'ai vu la boîte, avec, comme c'est quasiment l'affiche du film, j'ai cru que c'était un vieux jeu, et pas du tout. C'est un jeu qui
a
4-5 ans.
Non, il est sorti en 2020, ouais. Donc, jeu où on incarne... alors nous, on l'a testé à 3, là, avec Sébastien et Jean-Luc. Bon, idéalement 4, hein. De toute façon, il y a 4 personnages.
Oui.
Brody, Quint, Hopper et Requin.
Alors, le requin s'appelle Bruce, hein. Il faut le savoir.
Mais alors là, en VF, ils l'ont appelé Requin.
Ouais. Non, il s'appelle Bruce parce que c'était le prénom de l'avocat de Spielberg. Et on retrouve le requin qui s'appelle Bruce dans Nemo. Hein. C'est un clin d'œil direct aux Dents de la Mer.
Ah, trop fort. Ah, d'accord, génial.
Donc, c'est un jeu qui se joue en deux actes.
Oui.
Premier acte, le requin doit aller croquer des baigneurs. Donc, ils sont tirés au hasard au début de chaque tour. On tire une carte qui nous dit combien il y a de baigneurs sur une des quatre plages, ça peut être sur les quatre plages, hein.
C'est ça.
Donc, où sont les baigneurs? Et le requin se cache et pendant son tour va croquer, mais il doit dire aux autres où il a croqué des baigneurs quand même, ils s'en rendent compte. Et puis ensuite, au tour des trois autres, d'agir. Donc, Brody, reste sur l'île.
C'est ça.
D'Amity.
C'était moi.
Il peut aussi, avec ses jumelles
voir les plages.
Voilà, demander au requin s'il est dans le coin.
Il est fermé aussi.
Il est fermé, oui.
Et fermé des plages en se rendant dans le bureau du maire.
C'est ça.
Où il peut aussi faire du poste de police, je crois. Et il doit aussi alimenter...
les barils.
Ouais, alors le bateau de...
Je vais chercher dans le magasin qui est après...
De Quint.
On donne à Quint et Hooper, non?
Donc Quint qui est le...
Quint qui a les barils.
Ouais, il faut vous rappeler à quoi servent les barils.
Donc Quint qui est...
On n'en a pas parlé, en fait.
Ils servent à tuer le requin.
Alors, en fait, ça sert à charger le requin. Ouais.
En l'empêchant de replonger.
Voilà, de replonger.
C'est ça, oui.
Et puis Hooper, en fait, sur son bateau, a lui un lance-harpon qui permet, en fait, d'accrocher les barils au requin. Et donc, le premier acte se termine si le requin a mangé 9 plongeurs, il s'est vu deux barils d'accrocher.
C'est ça.
Et puis après, on passe au deuxième acte. Et donc, plus vous allez vite, en fait, plus vous avez de bonus, équipe requin ou équipe les autres, dans la deuxième partie, où c'est l'attaque du bateau, qui est donc décomposée en 8 cases. Et les trois... alors là, en fait, les trois personnages qui sont sur le bateau ont tous les mêmes... ils ont
Des
armes spéciales.
Oui, c'est ça, oui.
Uniques. Il y en a pas mal. Ouais.
C'est ça, oui.
Par personnage, et oui. Puis d'autres qu'ils ont pu gagner comme bonus en étant rapides dans la première manche du jeu. Et le requin, lui, gagne sa partie. Soit il dévore les trois personnages qui sont sur le bateau, mais il faut déjà les faire tomber dans l'eau, donc casser le bateau. Ou alors, il gagne en cassant les 8 parties du bateau.
C'est ça.
Et donc, nous, on a une partie assez tendue quand même, où ils ont fini par me dégommer les 18 points de vie de requin.
On a mangé du sushi. Voilà.
Alors qu'il restait 3 parties du bateau. Donc finalement, j'avais lu sur Gus & Co, qui est un site où je regarde des chroniques de jeux de société, j'aime bien les jeux qui chroniquent, et puis j'aime bien les chroniques. Et en fait, ils n'ont pas du tout aimé. Ils ont trouvé que le jeu était super déséquilibré, que c'était long et tout. Et nous, pas du tout. Quoi.
Non, j'ai adoré.
Donc une partie, ça dure combien de temps? Enfin, votre partie, elle a duré combien de temps?
Moi, je dirais une heure et demie.
Une heure, c'est ça,
peut-être.
Ouais, c'est ça,
ouais, une fois que tu connais bien les règles, je pense que.
Donc, c'est pas un jeu d'apéritif, c'est comme un jeu pour une soirée.
Oui, ouais, oui, complètement, oui.
Ou une après-midi.
Eh ben, ouais. Finalement, Sébastien, on parle pas de tes livres-jeux. Est-ce que vous avez quelques films de shark-exploitation à nous conseiller?
Alors
il y
oui,
en a beaucoup sur Amazon. Hein.
Ouais, mais justement, c'est ça le truc.
Il y a quand même un film, Dangerous Animal, qui est sorti au cinéma aussi, récemment. Alors qu'il a réussi à tous les deux à louper lamentablement.
Aucun de nous ne l'a vu. Okay. Mais non, c'est un film avec un serial killer qui se sert d'un requin, c'est ça.
C'est ça, et c'est ça qui était intéressant à voir. Alors voilà, on ne pourra pas vous en parler, mais on avait très envie de le voir. Et on ne devait pas être les seuls.
Tu parlais de Crawl. Alors sur Amazon, il y a Swim, en fait, qui copie Crawl. On a un requin qui s'attaque à une famille dans une maison.
Et qui passe entre les pièces.
Et un peu petit, c'est pour ça. Et si on veut avoir aussi beaucoup d'informations sur la Shark Exploitation, on a un très bon podcast à retrouver sur le web, Shark Parade.
Ok. Alors moi, je voulais quand même conseiller une petite BD aussi. C'est Les requins de Bernard Serré et Julien Solé au Lombard, dans la collection La Petite BDTech des Savoirs. Donc, comment s'appelait le Peter Sheckley, c'est ça? Le monsieur qui a écrit Jaws, hein?
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Il s'est repenti un peu quand même après. Oui. Et après, il a même fait des livres et des documentaires sur les requins et en fait, pas mal d'animaux marins. Parce que, en fait, on n'en a pas parlé, mais ça a quand même déclenché une vague de haine à l'encontre des requins, ces dents de la mer en 1975, il y a eu beaucoup de chasses aux requins ouvertes. Et donc l'animal a été, on va dire, diabolisé. Et voilà, il y a une BD, Bernard Serré, qui est quelqu'un qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui est spécialiste des requins. Et puis au dessin, Julien Solé, du fluide glacial, mais son papa peut-être, Solé, est plus connu dans le milieu de la BD. Donc j'aime bien cette collection. Le format, c'est du A5, et donc des bandes dessinées, documentaires, sur plein de sujets intéressants et très bien illustrés.
Et d'ailleurs, tu parlais de Richard Dreyfuss, qui apparaît qui a un grand rôle quand même dans Into the Deep, et à la fin, alors ça m'a surpris,
qui est assez récent,
pas génial,
sorti cette année sur les plateformes aussi,
avec des pirates,
c'est un clin d'œil aussi.
Alors je pense c'est normal qu'ils l'ont convoqué et tout, mais à la fin il fait un plaidoyer des requins dans le générique. Il dit les requins, il faut les défendre et tout, et ça m'a surpris.
On est un peu obligé. Même dans le jeu, les dents de la mer, il y a un petit papier de la fiction à la réalité. Protégeons les requins. Oui. C'est vrai qu'il y a peut-être à peu près 10 humains qui meurent
par an
de morsures de requins.
Oui. Et 1 million par les moustiques.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Non, et c'est pas des.
Faisons la chasse aux moustiques.
Voilà. Et alors Richard Dreyfuss, quand même, apparemment, c'est un peu hypocrite cette histoire, parce que comment tu dis, s'appelle ce film Into the Deep. La première scène du film, c'est une famille qui va se baigner, mais comme ça, genre pas très loin de chez eux, et le père se fait attaquer par un requin, requin qui en bouffe un bout et qui revient le finir, alors que normalement, apparemment, les requins n'aiment pas le goût de l'humain. Donc retombe dans ce travers de diaboliser le requin, et donc ils se sont peut-être sentis un peu obligés à la fin de faire une espèce de mea culpa aussi pendant leur générique de fin.
Moi j'ai un film que j'ai vu, alors c'était pas prévu que j'en en parlais très rapidement, c'est Instinct de survie, là a priori il est encore présent sur Netflix. C'est un film de 2016 où c'est une surfeuse qui est attaquée par un requin, c'est quasiment un tête-à-tête entre la surfeuse
elle est coincée sur un petit truc en rocher, face de la ville, ou...
alors moi qui suis très difficile et qui effectivement elle est vraiment coincée pas loin de la plage, mais sur un récif qui suit très difficile. J'ai trouvé ça très très bien. À la fin, peut-être un tout petit peu tiré par les cheveux, mais il y a du suspense, il y a des idées. Alors je sais pas c'est pas qu'un film de requin, c'est un film de survie quoi. Très intéressant si vous voulez voir un bon petit film sans prétention. Instinct de survie, c'est quand même pas mal.
D'accord, on va voir ça. Moi, j'aimerais conseiller Mega Shark versus Giant Octopus.
Ah, on attendait les films de Sci-Fi Channel, peut-être.
C'est ça, ouais, voilà.
Alors, justement, on parlait de diaboliser le requin dans le film Shark Exploitation. Les gars disent, au moins, nous, on n'a pas diabolisé le requin, parce que nous, les requins de nos films sont tellement débiles. C'est tellement des méca sharks, des ghost sharks, des
Dino
tempêtes, shark. Des tempêtes de tornado, requins. On est tellement loin de l'animal que finalement, voilà.
Les gens vont plus rigoler que avoir peur. J'aimerais juste revenir sur les attaques d'animaux.
Ouais.
Donc il y a le requin, il y a les oiseaux d'Alfred Hitchcock.
Ah oui.
Jurassic Park,
gros classique.
Spielberg. Les loups. j'ai pas trouvé le film.
non, c'est pas le
Piranha. Tu parles.
Voilà. Ouais, il y a un film de Joe Dante d'ailleurs. C'est alors ça. Joe Dante d'ailleurs qui avait été approché pour faire Jaws 3, mais dans une version humoristique. Et finalement, qui n'a pas du tout été faite, et ouais. Ils sont partis sur le projet Jaws 3D dans le.
Donc c'est pour ça qu'il s'est rattrapé après sur les films des années 80 avec.
Il avait déjà fait avant Piranha pour Roger Corman.
D'accord. Ah, ça, je savais pas.
Qui commence d'ailleurs par une petite fille qui joue à Jaws, le jeu vidéo, sur une bande arcade. Pour dire un peu tout de suite directement, bon, voilà. Voilà.
Voilà. Il y a aussi Le Chien avec Cujo.
Ah oui.
Ah oui, d'accord.
Cujo, voilà. Stéphane, j'avais jamais su si on disait Cujo ou Kuro. Je sais pas si
à l'époque, il m'a traumatisé ce film, voilà. J'allais juste dire ça.
Mais les gens ont continué d'acheter des chiens.
Ah. Là, c'est bien
pas comme
toi.
Ceux qui ont voilà. Quitté là, les plages en 75. Ouais.
Il y a les serpents avec Snake.
Ah oui, il y en a beaucoup.
Anaconda.
Anaconda aussi, c'est vrai. Non, mais voilà.
Les serpents dans l'avion aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, la liste est.
Et les araignées aussi.
Ah bah ouais.
Un bon film. Avec
Arachnophobie, moi j'avais bien aimé
les
au cinéma.
Vermine sur Netflix.
Alors, un film français ouais, qui a cartonné l'année dernière. Ouais.
Et il y avait aussi avec une attaque de lion là, qui est très très récent.
Ouais. Avec Michael Douglas, ça. Ça date aussi, je l'ai vu aussi.
Non, c'est quelque chose de plus récent. C'est une famille qui est coincée dans une voiture. Il y a des lions qui attaquent. Mais ça, je n'ai pas vu. Alors, forcément, je vous parle d'un film que j'ai pas vu, dont je ne connais pas le titre. Mais c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'animaux. C'est
ouais, moi, j'avais bien aimé le film avec des sangsues aussi, là. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais. On y croit un peu moins.
Et aussi, soudain, les monstres, c'est des rats. Voilà.
Ouais. D'accord.
C'est ça.
Ça me dit quelque chose.
Bon, et eh ben.
C'est un vieux film.
Voilà. L'agenda, quelques secondes, bah, allez à Héros et Chimères le week-end prochain à la Chaumière du Bout des Rêves sur le site de La Deuxière pour faire du jeu de rôle et puis il y a une initiation aux grandeurs nature pour découvrir un peu le monde de Candoria. Et ben on rend l'antenne et on se donne rendez-vous dans deux